Bonsoir à tous, il est 20h à Paris, 21h à Tel Aviv et vous êtes bien sur RFI.
Véronique Rigolet.
Et à la une ce soir, la CPI émet un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza. Colère du Premier ministre israélien qui fustige une cour antisémite et assure qu'il ne cédera pas tant que les objectifs de guerre israéliens n'auront pas été atteints. L'escalade sur le front du conflit ukrainien. Ce soir, Vladimir Poutine n'exclut pas de frapper les pays qui ont fourni à Kiev des armes utilisées pour cibler la Russie. Le président russe qui confirme avoir tiré un missile balistique contre l'Ukraine et se dit prêt à tous les scénarios. Aux États-Unis, Matt Gaetz jette l'éponge et renonce à devenir ministre de la justice de Donald Trump après une semaine de controverses et surtout le manque de soutien dans son propre camp républicain. Enfin, en France, le gouvernement, face à la colère du monde agricole, mais également des élus locaux opposés aux économies que veut leur imposer Matignon dans le cadre du projet de loi de finances. Le Premier ministre Barnier a tenté de les apaiser, mais sans vraiment convaincre. Complètement révolté, Benjamin Netanyahou s'insurge contre le mandat d'arrêt émis à son encontre et contre son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien, qui n'a pas de mots assez forts pour dénoncer des mensonges, une cour antisémite, s'estimant victime d'un nouveau procès Dreyfus. Netanyahou assure qu'il ne cédera pas tant que les objectifs de guerre israéliens n'auront pas été atteints. Soutien relayé par l'ensemble de la classe politique israélienne, alors que de leur côté, l'autorité palestinienne et le Hamas saluent une étape importante vers la justice. On retrouve à Ramallah notre correspondante Alice Froussard. Bonsoir,
bonsoir
Alice.
Bonsoir.
Ces mandats chez vous, c'est vu comme un événement, car c'est la première fois que la CPI réclame ainsi l'arrestation d'alliés occidentaux.
En fait, pour les Palestiniens, c'était surtout un moment attendu depuis longtemps, parce que dans l'ensemble, la plupart des Palestiniens estiment que c'est un message fort, qu'il y a un soulagement. Enfin, un organisme international prend une mesure notable, nous disait un jeune de Ramallah, la trentaine. Les gens voit surtout une forme de justice se mettre en place, car il y avait des doutes chez les Palestiniens. Est-ce que la Cour allait délivrer des mandats d'arrêt contre des dirigeants israéliens? Beaucoup étaient sceptiques. L'annonce a pris des mois, voire des années. Il y avait aussi cette pression américaine contre la Cour pénale internationale, juge une autre Palestinienne, et l'élection de Trump n'annonçait rien de bon, lui qui a une position très critique des institutions de l'ONU. Malgré tout, c'est une avancée claire, même si les attentes sont élevées, car poursuit cette Palestinienne, nous voulons aussi que ces plus de 75 ans d'occupation cessent. L'optimisme est toutefois prudent à Ramallah, car cela n'arrêtera pas la guerre à Gaza, nous disent des habitants qui, depuis plus d'un an et un mois, les Palestiniens de l'enclave côtière ravagée par la guerre sont déplacés de force, tués, affamés, vivent dans des conditions inhumaines, répète-t-il. Et beaucoup craignent aussi une efficacité des mandats d'arrêt, soulignant le soutien inconditionnel des Américains aux Israéliens.
Alice Froussard, en direct de Ramallah. Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, sont donc notamment accusés d'avoir privé les Gazaouis de nourriture, d'eau, d'électricité et d'avoir volontairement demandé à leurs soldats de cibler des civils. La CPI compte donc sur ses 123 pays membres pour arrêter ses dirigeants israéliens. S'ils mettent un pied sur leur sol, il y a peu de chances que ça arrive, même si le symbole est très fort, explique François Dubuisson, professeur de droit international à Bruxelles.
À ce stade-ci, il est clair que l'émission de mandat d'arrêt va rester probablement assez symbolique. Mais en même temps, c'est un symbole très fort, puisque les crimes pour lesquels le mandat d'arrêt a été délivré, ce sont des crimes extrêmement graves. Il y a des crimes de guerre, mais également des crimes contre l'humanité, et en particulier le crime de persécution et le crime d'extermination. Donc le fait que deux dirigeants israéliens fassent l'objet d'un tel mandat d'arrêt avec de telles accusations ne peut pas rester sans conséquences politiques auprès d'États, notamment les États européens, qui restent assez alliés à l'État d'Israël.
Et l'Union européenne indique, en tout cas ce soir, que les mandats d'arrêt de la CPI doivent être respectés et appliqués. L'escalade sur le front du conflit russo-ukrainien, alors que le président Zelensky dénonçait ce matin un tir de missile balistique intercontinental de la Russie contre l'Ukraine, en qualifiant d'ailleurs au passage la Russie de voisin fou. Ce soir, le président Poutine précise bien qu'il s'agissait d'un tir de missile balistique de moyenne portée qui ne portait pas de charge nucléaire, mais tout en menaçant de frapper les pays dont les armes sont utilisées par l'Ukraine contre le territoire russe, Oriane Verdier.
Oui, le conflit en Ukraine a pris un caractère mondial, affirme Vladimir Poutine qui s'adressait à la nation ce soir. Il accuse les Occidentaux d'autoriser l'usage de missiles américains et européens sur le sol russe. Ces frappes auraient échoué, mais la Russie estime aujourd'hui être dans son droit de viser les installations militaires des pays concernés. Les médias britanniques ont annoncé hier l'utilisation de missiles longue portée britanniques, donc après avoir obtenu le feu vert de Londres. Le gouvernement n'a ni confirmé ni démenti. L'administration américaine, elle, a reconnu avoir autorisé l'utilisation de ces missiles lors d'une frappe contre une installation militaire russe plus tôt dans la semaine. Plusieurs pays occidentaux fournissent des missiles à longue portée à l'Ukraine, mais jusqu'à présent, aucun n'en avait autorisé l'usage sur le territoire russe, conscient du symbole d'agression que cela représentait. Vladimir Poutine a également annoncé donc que ses forces ont frappé l'Ukraine, vous le disiez, avec un nouveau missile balistique hypersonique de moyenne portée. Il n'existe, selon lui, aucun moyen de contrer de telles armes. Un nouveau missile dont l'utilisation est un nouveau développement inquiétant, selon le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies. Il a appelé les parties à prendre des mesures urgentes vers une désescalade.
Oriane Verdier du service international de RFI. Et la Russie se donne en tout cas les moyens de combattre encore longtemps. Les députés russes ont validé le projet de loi de budget 2025-2027, qui prévoit une envolée de 30% des dépenses militaires l'an prochain, soit un budget défense de 127 milliards de dollars. Aux États-Unis, Matt Gaetz renonce à devenir ministre de la Justice de Donald Trump après une semaine de controverses suscitées par ce choix et le manque de soutien dans son propre camp. L'ancien élu républicain de Floride préfère jeter l'éponge, départ salué par Donald Trump pour qui Matt Gaetz a un bel avenir devant lui malgré son retrait. En France, la colère des agriculteurs ne retombe pas, bien au contraire. La coordination rurale promet de multiplier les actions coup de poing. Le principal syndicat agricole maintient ainsi son blocage du port de commerce de Bordeaux et la pression sur le gouvernement. Colère également des élus locaux opposés aux économies que veut leur imposer le gouvernement. Dans le cadre du projet de loi de finances, le Premier ministre a clôturé cet après-midi le congrès de l'Association des maires de France. Michel Barnier a tenté d'apaiser, mais sans vraiment convaincre. Charlotte Urien-Tomaca.
Certains maires l'attendaient de pied ferme. Dans le contexte d'économies budgétaires et de fortes tensions avec les élus locaux, la visite de Michel Barnier relevait plus de l'opération séduction que de la visite de courtoisie. Le Premier ministre l'a rappelé à plusieurs reprises, il ne sait pas combien de temps il restera à Matignon et le projet de loi de finances de 2025 a été réalisé dans un cadre inédit. Michel Barnier.
Jamais un Premier ministre depuis 65 ans n'a eu 15 jours à peine pour préparer le budget. Je dis simplement la vérité. Et donc ce budget, il n'est pas parfait. Il comporte parfois des injustices ou des points qu'il faut revoir.
S'il a tenté de rassurer les édiles.
Vous avez dit avec beaucoup de force la blessure qui a été celle de tous les élus locaux d'entendre dire que si la France était en déficit, c'était leur faute. Vous ne m'entendrez pas dire ça, parce que je ne le pense pas.
Il n'est pas revenu sur les économies qu'il leur demande de réaliser. Pour le président de l'AMF, David Lisnard, le compte n'y est pas vraiment.
La suite dépendra de ce qui va sortir de la discussion budgétaire au Sénat. Je comprends que le Premier ministre n'ait pas voulu entraver la discussion au Sénat, et je pense qu'il marche sur des œufs.
Mais Michel Barnier s'est engagé à venir faire le bilan des mesures proposées en 2025 au prochain congrès de l'AMF, s'il est toujours Premier ministre d'ici là.
Et la COP29 de Bakou, dans le sprint final, dernière phase des négociations autour du chiffre de l'aide financière qui doit être allouée aux pays les plus pauvres pour qu'ils puissent engager leur transition énergétique. Un projet d'accord est attendu demain, mais la conférence pourrait un peu déborder en raison de certains blocages persistants. Le groupe des pays arabes indique notamment qu'il refusera tout texte ciblant les énergies fossiles. Déclaration qui fait écho aux attentes des Européens qui, eux, justement, réclament des efforts sur l'engagement de l'humanité pour sortir de ces énergies fossiles et réduire les gaz à effet de serre.